Chapitre 8. Monsieur Foxcroft fait une demande en mariage. Il est refusé. Du jour où Monsieur Foxcroft avait eu sa première conversation avec Monsieur O'Donoghue à Londres, il avait arrêté dans sa tête la ligne de conduite qu'il aurait à tenir envers Miss Matilda Perkins et ne s'en était jamais départi. S'il survint plus tard des circonstances occasionnant quelques légers changements à cette combinaison, le principe qu'il avait formé n'en demeura pas moins le même, et nul, en dehors de tout parti pris d'avance, ne saurait accuser l'ex-lieutenant d'inconstance. Accomplir un acte aussi important que celui du mariage, sans être parfaitement édifié sur toutes les particularités afférentes à la personne que l'on veut épouser, est une imprudence dont M. Foxcroft était incapable. Aussi, bien convaincu de l'accueil favorable que recevrait l'aveu de sa tendre passion, il pensa que ce qui lui restait à faire était de se présenter une après-midi à la demeure des demoiselles Perkins. Son premier acte fut donc de se diriger vers Bellevue Terrasse et là, après les compliments d'usage, sans s'excuser en aucune façon sur la liberté qu'il prenait, comme si la chose était toute simple, il pria la sœur aînée de vouloir bien lui accorder quelques minutes d'un entretien secret. Dans un cas semblable, la requête seule dévoile le but désiré. Miss Louisa elle-même, malgré son peu d'expérience en ces matières, n'hésita pas un instant et, se retournant avec une grande dignité, dit à sa sœur « Mathilda, ma chérie, voulez-vous avoir la bonté de passer pour un moment dans la pièce à côté? Monsieur Foxcroft désire me parler en particulier. » Tout au fond de son cœur, Mathilda trouvait peut-être qu'au point où en étaient les choses, cette cérémonie était bien inutile. Mais trop heureuse de voir enfin s'approcher l'accomplissement de ce qu'elle désirait si ardemment, toute rougissante, elle tourna vers son amant des yeux languissants et sortit. M. Foxcroft n'éprouvait pas le moindre embarras. Son intention était de faire une demande en mariage lorsqu'il serait bien convaincu que le revenu de la jeune personne joint au sien lui permettrait de faire le bonheur de son adorée. Quant à Miss Louisa, qui, par une sorte d'intuition maternelle, devinait parfaitement ce qui allait suivre, elle s'était assise tout au milieu du sofa, faisant signe au gentleman de prendre un siège vis-à-vis d'elle. « Ma chère Miss Perkins, commença celui-ci avec une familiarité affectueuse qui semblait un avant-goût d'un sentiment fraternel. Ma chère Miss Perkins, vous devez depuis longtemps, je n'en doute pas, avoir découvert l'état de mon cœur. Vous n'êtes pas sans savoir que j'adore votre sœur. » « Je l'ai bien un peu pensé, capitaine Foxcroft, » répondit Miss Louisa, rougissant légèrement devant l'ardeur des expressions de son interlocuteur. « J'ai bien cru remarquer de votre part une légère partialité à son égard. »« Ah, ma chère madame !» s'écria l'amoureux. « Qu'un langage aussi mesuré peint mal mes sentiments. Mais dites-moi si votre charmante sœur, à laquelle, en homme d'honneur, je n'ai jamais osé avouer mon amour, possède encore le cœur que je la supplie de m'accorder et si je puis en même temps espérer recevoir de vous une amicale approbation. « Oh, quant à moi, capitaine Foxcroft, il n'est rien que je ne sois prête à faire pour assurer le bonheur de ma chère Mathilda. Voici bien des années que c'est mon plus vif désir, non pas que ceci entame en quoi que ce soit la fraîcheur de sa jeunesse, car j'ai commencé à me préoccuper de son avenir quand elle n'était encore qu'une enfant, mais pour ce qui est de l'état de son cœur, capitaine Foxcroft, je crois que ce que vous avez de mieux à faire est de vous en informer auprès d'elle-même. » Ainsi encouragée, ma chère Miss Perkins, je ferai donc une tentative. Mais, hélas, avant de pouvoir me jeter aux pieds de votre adorable sœur, je me vois forcée, par les odieuses entraves de la vie, à vous faire encore une autre demande, presque aussi indispensable que la première. Mes ressources sont fixes et hors de toute atteinte. Mais malheureusement, elles ne sauraient suffire aux dépenses nécessitées par un train de maison un peu élégant. Voulez-vous m'apprendre, avec une franchise égale à celle que je mets à vous le demander, quel est le chiffre de la fortune de Mademoiselle Mathilda ? Naturellement, monsieur, vous saurez tout. Devant une proposition aussi honorable que la vôtre, on ne doit rien dissimuler. Mais laissez-moi d'abord vous dire combien ma sœur tient peu à l'argent. Charmante créature, âme noble, s'écria Monsieur Foxcroft grandement ému. « Mais, ma chère madame, ne voyez-vous pas que plus elle se montre désintéressée, Plus le devoir du mari qu'elle honore de son choix doit être de se préoccuper de cette question, ne fût-ce que pour elle. Non, non, Miss Louisa, là-dessus mon parti est pris, irrévocablement pris, et je vous conjure de faire cesser cette terrible angoisse. Dites, je vous prie, quelle est la fortune exacte de votre sœur.
Je vais tout vous dire, monsieur, dit gravement Miss Perkins, dont le visage portait l'empreinte d'un embarras évident. Ma sœur Mathilda a fort peu de choses à elle. Le bien sur lequel nous vivons m'appartient presque en entier. Peu de temps après ma naissance, un oncle de ma mère me laissa 3 000 livres sterling qui fructifièrent jusqu'à ma majorité. À peine venais-je d'avoir mes 21 ans que mon père et ma mère moururent, ne nous laissant presque rien. J'abandonnai à Mathilda cette petite somme et en plaçant le tout sur les fonds de l'État, je récolte un revenu de 200 livres sterling par an à l'aide duquel nous arrivons à vivre honorablement et qui nous permet d'aller chaque année faire un séjour à la mer. Pendant la durée de ce petit discours, la physionomie de M. Foxcroft avait subi plus d'une altération. Mais Miss Louisa ne s'en était même pas aperçue, car la bonne créature, ne goûtant nullement la tâche qu'il lui fallait accomplir, loin de rechercher le regard de son interlocuteur, tenait obstinément ses yeux fixés sur le bonnet de nuit qu'elle ourlait avec une persévérance sans égale. Au moment où elle terminait sa harangue, M. Foxcroft s'était levé, et ce ne fut pas sans quelque surprise qu'elle le vit venir s'asseoir auprès d'elle. Le sofa était fort petit. Miss Louisa étant placée au beau milieu, il arriva qu'en s'asseyant, l'ex-lieutenant se trouva être tellement rapproché de sa voisine que celle-ci se recula autant que les dimensions du meuble le lui permettaient, attendant avec anxiété une réponse dont la communication nécessitait un tel rapprochement.
« Oh, Louisa, fille incomparable, ne vous éloignez pas ainsi de moi !» commença le gentleman. « Hélas, quelle raison auriez-vous de me craindre ? Vous ne savez pas dans quel tumulte insensé vous venez de plonger mon âme. Jamais, non jamais, la langue d'une femme, pas même celle d'un ange, n'a pu raconter une chose aussi bien faite pour transporter un noble cœur et l'enchaîner pour toujours.
« Monsieur !» s'écria Miss Perkins toute saisie, sans avoir pourtant deviné le moins du monde le vrai sens de ses paroles.
« Ah, c'est donc ainsi que je devais être traité par vous ? Hélas ! Comment aurais-je pu espérer un autre sort ? Comment aurais-je pu m'attendre à rencontrer de la sympathie pour des sentiments si peu compris jusqu'ici ?
Que voulez-vous dire, monsieur ? Criait Miss Louisa, qui, tout en se blottissant dans le coin du sofa le plus éloigné possible, se demandait si M. Foxcroft ne devenait pas fou.
Ce que je veux dire, Louisa, ce que je veux dire, reprit ce dernier, mais d'une voix si douce que la pauvre fille sentit se calmer la terreur d'être assassinée dans un accès d'excitation cérébrale qui venait de lui traverser l'esprit au souvenir d'un entrefilet du journal. Vous demandez ce que je veux dire, ma trop charmante amie. Ah, les paroles me manquent pour vous répondre. Avec quel langage pourrais-je jamais vous dépeindre la violente révulsion qui s'est opérée dans mes sentiments aussitôt que je suis entrée dans cette fatale chambre ?
Fatale, monsieur Foxcroft, fatale ! S'écria la pauvre Louisa, dont toutes les terreurs reparaissaient à l'ouïe de ce mot, qui, pour elle, évoquait une idée de mort.
En vérité, monsieur, je vous demanderai de ne pas me parler ainsi. Voulez-vous me faire le plaisir, maintenant que vous connaissez l'état des finances de Mathilda, de me répondre catégoriquement ? J'ai hâte de transmettre votre décision à ma sœur, afin de ne plus me mêler de cette affaire. » En prononçant ces mots, Miss Louisa n'avait plus l'air ni polie ni aimable. Mais M. Foxcroft ne voyait rien, ne remarquait rien, et passant hardiment son bras autour de la taille de la vieille fille,
« Non, dit-il, je ne saurais vous quitter ainsi, chère Louisa, il faut que vous m'entendiez. »
Miss Louisa n'était pas habituée à se trouver ainsi enlacée, et ceci lui déplaisait fort. Trouvant que, même de la part d'un beau-frère, ses façons étaient du plus mauvais goût, elle le pria de retirer son bras. Mais alors, ce fut bien autre chose. Le fougueux officier, brûlant toutes ses poudres à la fois, se jeta aux pieds de sa compagne en s'écriant « Oh, Louisa, c'est vous que j'aime, je n'ai jamais aimé que vous. Votre froideur m'a glacée et j'ai fait tout au monde pour étouffer mon fatal amour. J'ai voulu même donner le change à mon cœur,
Mais je sens que c'est impossible, je sens que c'est plus fort que ma volonté. Vous seul pouvez fixer mon sort. Un mot, un seul de votre bouche, dites, oh, dites, voulez-vous être ma femme ?» La dame se leva, d'un mouvement brusque, elle retira ses mains de l'étreinte passionnée de son amant, et, se réfugiant derrière une table qui lui servait de rempart, d'un ton délibéré, elle répondit « Non, monsieur, je ne veux pas !» Puis, rentrant dans la pièce voisine, elle dut à son indignation de trouver la force de raconter à la palpitante Mathilda comment s'était terminée son affaire d'amour. Comment M. Foscroft sortit de la maison, personne ne le sut jamais. Seulement, il est à présumer qu'il ouvrit la porte de la rue lui-même, fort doucement, d'après le rapport de la bonne, qu'on envoya peu de temps après, acheter pour 2 sous d'ammoniaque, car cette fille n'avait rien vu ni rien entendu. Il est facile de deviner ce qu'éprouva Miss Mathilda en cette triste occurrence. Elle se sentait si absolument incapable d'affronter la gaieté de sa fraîche et brillante amie de Curzon Street qu'elle s'était confinée dans sa chambre pour 4 jours, parlant à peine de sa mésaventure et trouvant dans le ravaudage de ses bas la meilleure de toutes les consolations. Le 5e jour, il advint que Patty et son groom arrivèrent à la découverte et, en dépit de la répugnance que ressentait la pauvre adepte de Sainte-Catherine à parler de sa déception, il lui fallut en venir à raconter que M. Foscroft n'avait pas trouvé sa dot suffisante pour entrer en ménage. Du changement survenu dans les sentiments du gentleman, ayant obtenu préalablement de Louisa la promesse d'un secret absolu, elle ne dit jamais rien. Patty déclara le lieutenant un misérable sans-cœur. Elle n'aurait jamais cru que, depuis l'institution du mariage par Adam et Ève dans le paradis terrestre, pareille chose pût arriver. « Mais, ajouta-t-elle, ne vous désespérez pas, Mathilda. Papa va recevoir le soir des foules d'hommes comme à Brighton. Et si j'étais de vous, j'aurais bien vite fait un nouvel amoureux au nez et à la barbe de ce sacripant. Seulement, je vous engagerai désormais à faire savoir d'avance le chiffre de la somme que vous possédez. Comme cela, il n'y aurait plus, du moins, de malentendu. Allons, ma chère, il faut que je m'en aille. » « Maman attend aujourd'hui je ne sais quel vieux lord auquel elle tient absolument à me présenter. Prenez courage, je vous trouverai des masses de beaux, vous verrez. » Et sur cette assurance réconfortante, Patty s'en alla, laissant les 2 sœurs en train de méditer sur ces derniers mots. « Quelle est bonne et charmante !» dit Miss Mathilda après un silence de quelques minutes. « Comment ne pas l'aimer ? Et vraiment, Louisa, en ce qui me concerne, il me semble qu'elle a raison. Elle est si fine, si avisée. Qu'en pensez-vous ? Faire en sorte que l'on sache ce que vous avez de dot, c'est là ce que vous voulez dire, Mathilda. Ah, si c'est le moyen d'éviter le renouvellement d'une si horrible aventure, oui, c'est bien ce que vous avez de mieux à faire. Si toutefois, ma chère, vous ne persistez pas dans l'idée du mariage. Et que de soucis vous vous épargneriez dans ce cas, car autrement, je craindrais que cette mesure ne nuisît à votre établissement. » La pauvre Miss Perkins fut presque terrifiée en voyant, par la coloration subite du teint de sa sœur, combien cette supposition lui était désagréable. « Je voudrais, Louisa, ne pas vous voir ainsi, constamment oublier la distance énorme qui existe entre nos âges, » reprit aigrement Mathilda. Et je trouve cruel à vous de faire de si tristes allusions à mon peu de fortune quand il vous serait si facile de renverser l'obstacle qui brisera ma vie. » Grand Dieu, Mathilda, que voulez-vous dire ? Croyez-vous, Louisa, que si vous aviez placé sur ma tête la moitié, seulement la moitié, vous entendez, de votre bien, je n'aurais pas trouvé une foule de maris, dit Mathilda avec amertume. « Je crains bien, en effet, que vous n'eussiez réussi, en ce cas, à en trouver une masse. »« Vous craindriez, que signifie cela, quand vous savez si bien que c'est le plus cher désir de mon cœur ?»« Le plus cher désir de votre cœur, Mathilda, ne peut être d'acheter un mari avec 2575 livres sterling, car c'est précisément là la moitié de ce que je possède. » Il est bien facile de tourner en ridicule même les choses les plus sérieuses. Mais ceci est mon affaire. Voyons, Louisa, M'autorisez-vous à dire à Mrs. O'Donaghue, notre excellente amie, que mon bien s'élève à un peu plus de 3 000 livres, avec mes 500 livres, vous savez ?»
Ma chère enfant, je ne me reconnais pas le droit de vous empêcher de dire quoi que ce soit à Mrs. O'Donaghue. Mais quant à ce que vous me demandez là, non, je ne le ferai jamais.
En recevant cette réponse définitive, Mathilda, indignée, roula fiévreusement son ouvrage, le jeta sur le sofa et quitta la chambre.
Pauvre fille, murmura Louisa, tout en allant fermer la porte qui avait été tirée avec violence mais non fermée. Elle aura le tout après moi, mais ce serait offenser Dieu que de donner 2 575 livres sterling pour acheter un homme tel que ce capitaine Foscroft pour elle qui est encore si bien comme elle dit. Non, non, ce serait une mauvaise action.